10h30 sur Bac FM, on est mercredi. Bienvenue, mettez-vous à l'abri et au chaud, surtout avec ce temps. C'est un froid qui vient du Groenland. On va en parler dans les infos de 13h, mais juste avant, c'est le ciné, comme tous les mercredis. Action, c'est parti.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y, Jean-Pierre.
Moteur. Et action.
Je m'appelle Théo, bienvenue si vous nous rejoignez, que vous ne connaissez pas ce rendez-vous, c'est tous les mercredis matins, 10h30. On parle cinéma, car en France, le mercredi, c'est le jour du cinéma, des sorties ciné, des bandes annonces aussi qui arrivent sur YouTube. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez le temps dans la journée, à aller voir. Il y a beaucoup de grosses bandes annonces qui sont sorties récemment. Je pense à Charles Aznavour, à L'Amour Ouf aussi, très attendu de Gilles Lelouch. Tous ces films, on en parlera bien sûr les mercredis à venir dans Action. Je dis on, car je ne suis pas tout seul, je suis accompagné juste en face de moi de Laetitia. Salut Laetitia.
Salut Théo.
Ça va?
Eh ben ouais, moi je suis ravi de retrouver ce petit rendez-vous du mercredi qui m'a un petit peu manqué pendant les vacances. Hein.
Mais ouais, moi aussi, alors c'est ce que je disais, là on est plus sur un action à écouter auprès du feu avec ouais. Des chamallows,
ouais, on un s'attendait petit plaid. Plus à l'écouter avec un petit cocktail, mais bon,
ouais.
Ah non, là ça
un
sera avec
un
chocolat chaud. Ouais.
Un temps de Toussaint en plein mois de septembre, ouais, c'est assez énervant, assez déprimant, mais c'est pas grave, on va se remonter le moral avec ce très beau programme qui nous attend. Laetitia, on a pas mal de choses à voir
ouais.
Ensemble, il y a ton film du grenier. En fin d'émission, bien sûr. Une ressortie aussi au cinéma Zarin, c'est les fameux Ciné Comedy Club qu'on avait déjà évoqué avant les grandes vacances. Eh bien, ça repart parce que ça a très très bien marché cet été. Il y a de l'opéra aussi, l'opéra de New York qui a sorti toute sa programmation. Il y a 8 séances à ne pas louper jusqu'à mai 2025. Il y a de la comédie française aussi avec Laurent Lafitte, en Cyrano de Bergerac. Une avant-première des événements, bien sûr, du ciné jeunesse. Les sorties de la semaine avec 3 nouveaux films et un très très attendu de Tim Burton.
C'est peut-être pour ça qu'on a un temps d'Halloween en fait. Hein.
Et oui, c'est vrai, c'est un peu Halloween avant l'heure d'ailleurs, avec le retour de Beetlejuice. On va en parler bien sûr, mais juste avant, Letty, on va vous parler des petites infos qu'on a retenues ciné. C'est parti.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes ?
Alors les nouvelles, elles sont bonnes, mais pas toujours, hein, parce que justement, dans les infos ciné, on retrouve beaucoup d'adaptations, des projets, ou... et en cours de tournage, et parmi eux l'univers Disney qui est souvent mis en lumière. Et toi Letty, bah, ça te saoule un peu, ton info, bah, c'est aussi un peu un coup de gueule.
Bah ouais, hein, si vous avez grandi avec la magie des films et des personnages de Disney, et bien toute votre enfance risque d'être ruinée par la perversion d'un seul homme, le réalisateur britannique Rhys Frake Waterfield qui prend un malin plaisir à faire basculer le monde merveilleux de Disney dans l'horreur en s'attaquant au fur et à mesure aux héros qui ont bercé notre enfance. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup les films d'horreur, mais ça m'agace un petit peu. Alors c'est qui d'abord ce Rhys Frake Waterfield? C'est un réalisateur producteur de films d'horreur indépendants à l'origine. Il a par exemple produit Krampus, dans lequel il s'attaquait d'ailleurs de façon assez réussie à Noël. Hein. Si vous voulez un film d'horreur de Noël, je vous le conseille. Ce Rhys Frake Waterfield, récemment, il a profité du fait que Winnie l'ourson soit tombé dans le domaine public en 2022 pour transformer notre gentil nounours en tueur
ouais.
Sanguinaire.
Il a sauté sur l'occasion.
Ah bah carrément, il en a... Il nous a pondu un slasher grotesque hein, qui s'appelle Winnie the Pooh Blood and Honey, c'est sorti en 2023. Il y a une suite aussi hein, qui est déjà sortie aux États-Unis qui va arriver directement en VOD en France à la fin du mois, mais qui circule déjà énormément sur Internet.
Ouais.
Et figure-toi que Rhys Frake Waterfield, il compte pas en rester là, puisqu'il semble vouloir même se spécialiser dans le genre Disney revisité façon psychopathe. On a récemment d'ailleurs pu découvrir les trailers de ses futures adaptations version horreur de Peter Pan et de Bambi. Je les ai regardés. Ça paraît aussi absolument grotesque. Hein.
D'accord. Ouais.
Bambi en tueur sanguinaire.
Ouais.
Ouais, bon. Voilà. Et puis c'est pas tout, puisqu'il travaille aussi à l'adaptation de Pinocchio, et toutes ces réjouissances, elles sont prévues pour 2025.
Mais est-ce qu'il y a vraiment un public sur ces films,
Alors,
là
ils sont
en premier degré, tu vois.
Le Winnie l'ourson a été beaucoup regardé, beaucoup critiqué, mais quand même énormément vu par le public de films d'horreur.
Ouais.
Et en plus, ça donne des idées à d'autres, puisqu'il y a un autre mec qui s'appelle Steven Lamorté. Alors lui, il a décidé de s'attaquer à l'icône des icônes, à Mickey.
D'accord.
Il va y avoir un film.
Mais oui, parce que c'est tombé dans le domaine public aussi.
Et bien lui aussi, ouais. Mickey, il est tombé récemment dans le domaine public, enfin du moins son premier film qui s'appelait Steamboat Willie, mm-hmm. et qui là va ressortir dans une adaptation. Alors ça va être une comédie horrifique, donc là quand même un peu plus millième degré.
Ouais.
Et bah, ça aussi, hein, c'est prévu pour janvier 2025. Alors moi je vous dis, hein, pourvu que personne ait l'idée de construire un parc d'attractions dédié à ces films-là, parce que ce serait vraiment un Disneyland de l'horreur.
Mais en vrai, c'est un peu ouf. En vrai, ces films-là, pour plaire, faut être sous substance. Enfin, c'est pas possible.
Bah, ouais, alors sinon, le Winnie l'ourson, faut vraiment le regarder en... Non, il est ridicule. Non, vraiment.
Ouais, tu ne le conseilles pas. Ce ne sera jamais un de tes films du grenier, Letty.
Non, je pense pas. Si, je le conseille parce que j'aime bien, justement, ces horribles choses un peu... ces nanars. Ouais. Il y a les bons nanars, il y a les mauvais nanars. Bon, celui-là, il est plutôt mauvais, mais c'est quand même à voir une fois si vous aimez les films d'horreur.
Bon, et ça va continuer, malheureusement.
Et ça va
avec
continuer,
ce
et ça va pas s'arranger.
Et peut-être qu'un jour, on aura une bonne surprise, peut-être avec un Dora l'exploratrice,
mais peut-être que
sanguinaire, un dos comme ça, on
peut-être
sait pas.
Que peut-être que le film avec Mickey va être bon, on va savoir.
Bah, on compte sur toi pour nous en reparler, Letty,
hein,
bien sûr. On va passer à mon autre info, c'est la mienne, on va continuer de parler des ovnis, virgule. Ouais, on va rester un petit peu dans l'univers ovni du cinéma. Ovni dans le sens où on peut voir des choses qui sortent de l'ordinaire. Et c'est le cas avec l'événement de vendredi, plus qu'un événement. C'est un raz-de-marée. Il aura fallu à peine 2 jours pour que 2 séances affichent complet au ciné Mazarin. Vendredi, YouTube s'invite au cinéma.
Inox Tag, il a fait une grande annonce sur sa chaîne.
Il a annoncé qu'il voulait monter l'Everest.
Le plus haut sommet du monde.
Je sais pas si je vais y arriver, quoi. C'est pas un endroit fait pour l'homme ici.
Regarde, on a un problème, je crois.
Quoi ?
Mon pion a changé ?
Ouais, c'est le bordel !
Faut faire avec vous.
Merci, maman.
Faut pas partir avec des appréhensions. Respire. Écoute. Observe. Elle t'aura fait une ascension magnifique.
C'est l'événement cinéma de la semaine, la sortie de Kaizen, 1 an pour gravir l'Everest. C'est prévu seulement 2 jours dans les salles, soit vendredi, soit samedi, selon vos complexes cinéma et vos diffuseurs. Le film documentaire du youtubeur InoxTag fait exploser les compteurs de réservation. C'est le cas au ciné Mazarin, mais c'est le cas dans de nombreuses salles en France. Au ciné Mazarin, il y avait 2 séances de prévues. J'ai discuté un petit peu avec le gérant du ciné Mazarin qui voulait peut-être en mettre une 3e.
Oui, on avait parlé de ça en off.
Ouais, et il a pas réussi en fait, mais de base lui il aurait voulu 3 ou 4. Il était persuadé que ça allait afficher
remplir,
complet,
ouais.
À chaque fois, là il aura fallu à peine 2 jours, quoi. C'est assez exceptionnel. Pour faire un petit point quand même, hein, sur ce film, ni alpiniste ni sportif. En fait, Inox Tag, il s'est donné le défi il y a 1 an de gravir l'Everest et il a filmé pendant 1 an son changement de vie, à la fois donc à Paris où il vit, mais également en montagne pour commencer ce défi et atteindre ce rêve, la préparation jusqu'à l'ascension. 2h37 durant lesquelles on va passer par toutes les émotions avec le jeune aventurier, et je trouve que c'est cool en fait. Ça amène un petit peu de fraîcheur au cinéma aussi.
Ouais, tu vas aller voir ça, tu vas nous raconter un peu.
Ouais, je vais y aller. Alors, je vais y aller à la fois aussi pour qu'on en reparle sur Bac FM lundi, notamment. Moi, j'ai envie de voir qui vient voir ce film au cinéma. Évidemment, des jeunes, mais je pense pas que des jeunes aussi. Et c'est là aussi où lui, il est fort, c'est qu'il va s'amener un nouveau public. Et le cinéma va s'amener aussi un nouveau public. Une nouvelle génération qui arrive en fait pour casser les codes et qui se retrouve sur les grands écrans. C'est un assez beau message. Ça va permettre aussi d'amener un public au cinéma qui n'avait pas forcément l'occasion d'y aller. Seul problème, eh bien, c'est que c'est un vrai succès, qu'il y a plein de déçus du coup, mais je vous rassure, si vous ne le savez pas, c'est que le film documentaire, il est à retrouver sur la chaîne YouTube d'Inox Tag, ça ce sera le lendemain. Cette projection, c'est aussi la réponse finalement à une demande d'un jeune public client des nouvelles plateformes. Certains ont même pris les devants, c'est le cas avec le groupe CGR qui a déjà diffusé dans des salles des tournois de e-sport, ou alors ont collaboré avec des youtubeurs, McFly et Carlito par exemple, pour diffuser certaines de leurs vidéos en avant-première en fait.
C'est intéressant de voir comment le cinéma se réinvente.
En fait, je pense qu'ils n'ont pas trop le choix,
ouais.
Tu vois. Aller dans une époque où, tu vois, là, il y a beaucoup de jeunes qui vont au cinéma, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui attendent que...
Le lendemain.
Ben voilà, qui sortent sur YouTube. Donc c'est aussi... Voilà, venez au cinéma, venez voir, et c'est quand même une autre projection aussi.
C'est une autre expérience, ouais.
Surtout sur un film comme celui-là. Puis dans un autre délire aussi, il y a MK2. MK2, c'est surtout des cinémas sur Paris,
qui a
créé le label MK2.ALT. Et eux, ils ont dédié, c'est une sorte de firme chez eux qui est dédiée à la distribution en salle des films de créateurs YouTube, dont celui, finalement, d'Inoxtag. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est une collaboration qui va perdurer, en fait, à l'avenir, où les YouTubeurs viendront de plus en plus au cinéma. En attendant, c'est le cas avec Kaizen, un an pour gravir l'Everest, et on en reparlera vendredi mais également lundi dans les infos de 13h. Et on termine ces infos ciné avec Manuel, notre intervenant spécialiste dans le cinéma, anciennement journaliste pour Radio France, et il voulait pour la première de cette saison nous parler d'une voix, celle de Dark Vador dans Star Wars par exemple. Vous l'avez certainement vu passer dans les infos, c'est la disparition à 93 ans de l'acteur James Earl Jones.
Oui, en effet, Théo, c'est une voix légendaire du théâtre américain qui s'en est allé rejoindre donc les étoiles du 7e art. L'acteur James Earl Jones, connu dans le monde entier pour avoir prêté sa voix à Dark Vador dans Star Wars, nous a quittés à l'âge de 93 ans, ont annoncé lundi soir ses agents. Le célèbre gratte-ciel new-yorkais de l'Empire State Building s'est d'ailleurs illuminé lundi soir pour rendre hommage au comédien. Son rôle le plus emblématique ne le verra jamais apparaître à l'écran. Cependant, George Lucas, le créateur de Star Wars, avait choisi cette voix après avoir tout d'abord envisagé Orson Welles pour interpréter la voix de celui qui va devenir le méchant le plus célèbre de l'histoire du cinéma. Il s'agit de Dark Vador. George voulait une voix plus sombre, donc il a embauché un gars né au Mississippi qui a grandi dans le Michigan, qui bégaye, et cette voix, c'est moi, avait raconté James Earl Jones dans une interview en 2009 à l'American Film Institute. Alors au départ, l'acteur ne voulait pas que son nom apparaisse au générique des premiers épisodes de Star Wars. Il estimait en effet que son travail s'apparentait plus à des effets spéciaux et il préférait que la reconnaissance revienne à l'acteur derrière le masque. On citera aussi parmi ses rôles importants celui du roi Jeff Joffer dans Un prince à New York ou encore le méchant Tulsa Doom dans le film Conan le barbare.
C'est une voix culte qui s'éteint finalement. Les voix maintenant qui sont en plus de plus en plus mises en avant
cette année.
Mais on en a perdu beaucoup. Une de plus rendue hommage donc par Manuel. On va maintenant se pencher sur ce qui se passe côté sortie ciné. Des films que vous pouvez retrouver dans les cinémas les plus proches de chez vous. Et notamment le ciné Mazarin à Nevers, générique.
C'est pour le cinéma ou la télé ?
Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran.
Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
On va pas passer par quatre chemins, on va commencer avec l'événement de ce mois de septembre. Michael Keaton et Winona Ryder, toujours de la partie. Une nouvelle, Jenna Ortega, le second volet de Beetlejuice, très attendu, 36 ans après le premier opus, qui reprend tous les codes du cinéma de Tim Burton, parce que c'est un film signé Tim Burton. Après une terrible tragédie, la famille Dietz revient à Winter River, le bercail hanté familial. Lida va voir son quotidien bouleversé lorsque sa fille Astrid va ouvrir accidentellement un portail vers l'au-delà, et ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne prononce le nom de Beetlejuice trois fois, ce qu'il ne faut surtout pas faire, et que ce démon farceur ne revienne semer la pagaille. On en parle juste après bande annonce.
Quand vous conduirez un break avec trois mômes à l'arrière et que vous vous taperez votre prof de pilates pour combler le vide de votre existence, je pense que vous rigolerez moins. A grandi ici, dans la vieille baraque sur la colline.
La maison hantée, sérieux? Ta mère, c'est Lydia Dietz?
Ouais, malheureusement.
C'est une vraie légende?
Les vivants et les morts peuvent-ils coexister?
L'occasion parfaite.
Les fantômes n'existent pas. Il n'y a que les débiles pour y croire.
J'en reviens pas de ce que je m'apprête à faire. Beetlejuice! Beetlejuice! Beetlejuice!
J'ai besoin de vous pour sauver ma fille. Mais qu'est-ce qui me dit que vous ne me trahirez pas?
Sur l'âme de ma chère maman, je jure. Oula. Bob, toi et les gars, vous montez la garde. Personne ne passe. En rue, Thierry.
Vous reconnaissez cette poule?
Jamais vu cette gonzesse de ma vie, ni de ma mort.
On attend quoi?
Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice.
Les affaires reprennent. Bob, tu gardes la boutique. Videz votre sac. Qui veut commencer? Ok, je me lance. Vous voyez, je suis prêt à faire des efforts.
L'au-delà, c'est n'importe quoi!
C'était vous dans mon rêve!
C'est plutôt rayon cauchemar.
Il n'y a rien de plus difficile que d'affronter l'inconnu et triompher de ses peurs.
C'est quoi ce Merci à tous d'être venus en ce jour, pas comme les autres, mais là, on aimerait un peu d'intimité.
Au cas où vous ne le saviez pas encore, Tim Burton ne rentre jamais dans le moule et Beetlejuice, Beetlejuice en est l'exemple. Dans ce film, bien l'aspect horreur est volontairement exagéré. Hein. C'est vraiment l'objectif. Bah, bien sûr, ça transforme même le film en comédie burlesque. C'est très efficace, on le voit rien que dans cette bande-annonce. Vraiment, ça sonne le burlesque à mort avec ce petit côté horreur derrière, bien sûr, qui est le style aussi. Hein. Beetlejuice, Beetlejuice, c'est obligatoire. Un style de Tim Burton qu'on retrouve même à travers les décors aussi. On le voit dans la bande-annonce. Je vous invite à aller voir les costumes, l'ambiance générale. Il y a le manoir aussi qui peut avoir, moi je trouve, des similitudes avec le château d'Edouard aux mains d'argent.
Oui, un peu aussi avec celui de la famille Adams.
Oui, un petit peu, voilà, ouais, tout à fait. Bah, d'ailleurs, en parlant de la famille Adams, Jenna Ortega qui apporte un souffle nouveau aussi dans son rôle d'ado rebelle qui est similaire à celui de Mercredi Adams dans sa série Netflix, avec une saison 2 qui va arriver bientôt. Ce second volet, c'est aussi un hommage au premier quand même.
Ouais,
avec
beaucoup de clins d'œil, hein, je crois.
Bah ouais, voilà, tout à fait, il y a beaucoup de clins d'œil, c'est un bel hommage, il y a de nouvelles aussi idées qui amènent un souffle nouveau. De quoi, Letty, avoir un bel avant-goût quand même
d'Halloween. Ouais, alors moi j'ai hâte de le voir ce film, hein, je te cache pas, normalement... Je vais aller voir ça, je vais vous raconter. Et Beetlejuice, ouais, c'est la nouvelle folie gothique de Tim Burton. Certains annoncent même à travers ce film, enfin son grand retour après des films un petit peu plus en demi-teinte. Alors d'autres le trouvent un petit peu brouillon ce film, parce que c'est un enchaînement de toute cette folie créatrice et imaginative de Burton. Donc voilà, moi j'ai hâte de le voir.
Bah c'est difficile hein, de mélanger l'aspect Burton avec le côté burlesque aussi. Ça doit être compliqué, hein. C'est un vrai défi qui s'est lancé.
Bah, puis là, il revient quand même... à la suite d'un de ses premiers gros succès, un de ses premiers gros films, quoi.
Ouais, bah ouais, bien sûr, ouais, non, mais tout à fait. Voilà, bon, bah, ça s'appelle Beetlejuice, Beetlejuice, c'est dispo à l'affiche, bien sûr, de votre ciné Mazarin dès ce soir, si vous ne savez pas quoi faire.
En plus, aujourd'hui, ça fait pas beau, alors.
Ouais, en plus, carrément, vous allez vous réfugier dans le cinéma, voir le retour de ce classique. On continue les sorties ciné de cette semaine avec Daniel Auteuil qui nous plonge dans une affaire judiciaire qui questionne, alors attends, on change complètement de sujet, hein, questionne sur la recherche de la vérité sur l'intime conviction et le travail d'avocat. C'est une histoire vraie hein, que Daniel Auteuil a décidé de mettre en image pour son 6e film en tant que réalisateur. Manuel nous en parle juste après la bande-annonce.
Vous allez me raconter ce qui s'est passé hier soir.
Je l'aurais déjà expliqué.
Oui, mais là, c'est à moi qu'il faut expliquer.
J'ai rien à faire ici, moi. Je devrais être avec mes enfants.
Si vous voulez que je vous aide, il va falloir me parler un peu.
Hier soir, avec ma femme, on s'est engueulé.
Pour quelle raison?
Moi, j'ai juste dit que je me faisais du souci pour elle. Elle a essayé de me foutre une baffe.
Elle était violente avec vous? C'est quoi cette histoire?
Oui, en effet, Théo, c'est absolument incontestable. Ce long métrage nous raconte l'histoire de Jean Meunier. C'est un avocat et depuis qu'il a fait innocenter un meurtrier récidiviste, il refuse de traiter des dossiers criminels. Et une nuit, par hasard, il va se retrouver face à Nicolas Milik, père de famille accusé d'avoir égorgé sa femme et qui clame son innocence. Persuadé que cet homme dit la vérité, Maître Meunier va se lancer à corps perdu dans sa défense. Voilà donc avec le fil, Daniel Auteuil qui réalise son cinquième long métrage après ses adaptations de Marcel Pagnol. On se souvient de La fille du puisatier, de Marius et de Fanny. Et puis aussi la comédie Amoureux de ma femme. Cette fois-ci, Daniel Auteuil signe un film un petit peu à l'ancienne, pourrait-on dire, assez lent dans son rythme. C'est un film noir avec des ressorts psychologiques. Et il incarne cet avocat qui est vraiment dans le doute, qui a choisi Grégory Gadebois, parfait en homme de tous les jours, en homme de la rue, dont la vie va basculer pour interpréter son client, jusqu'à la fin avec son ultime rebondissement. Son scénario repose essentiellement sur le face-à-face entre ces deux personnages.
Ça s'appelle Le Fil, c'est d'après une histoire vraie, la réalisation de Daniel Auteuil, c'est dispo dans votre ciné Mazarin à Nevers. Film français, maintenant comique de cette semaine, l'actrice Laetitia Doche passe derrière la caméra avec une fable sympathique et surtout bon enfant. C'est l'histoire d'Avril qui en a marre de perdre tous ses procès. Cette avocate va décider alors d'interrompre le cycle infernal en acceptant de défendre un chien qui s'appelle Cosmos. Accusé d'avoir mordu 3 femmes et condamné à être piqué, son maître malvoyant, joué par François Damiens, se remue ciel et terre. Un procès inédit, donc bande annonce, on en parle juste après.
Un chien qui a mordu 3 fois, il doit être endormi, c'est ça ce que dit la loi.
C'est vous l'avocate des causes désespérées, faites votre boulot.
Bon écoute, les causes perdues d'avance, tu les laisses de côté.
Je te jure.
Et tu gagnes, le seul limite à tes rêves.
Mais il y en a pas.
C'est toi.
Mon petit garçon d'amour, qui fait du croc dedans.
Bon d'accord, on y va.
Cosmos va être le premier chien à être jugé responsable de ses actes dans le premier procès de chien depuis le Moyen-Âge.
Écoutez-moi, personnellement, j'adore les chiens.
C'est elle qui défend la femme mordue.
Mais ce chien, il est méchant.
Attention, toupie, toupie, toupie.
Le chien Cosmos, sans nom de famille, de sexe masculin. Vous êtes fils de Barba Papa et Chocapic.
Oui.
Couché au pied de son maître, il va faire des circonvolutions.
Ils sont forts, ces comportementalistes.
Ce chien ne mord que les femmes. Ce chien, il est misogyne.
Cosmos, tu risques de mourir, tu comprends?
Faut que je rentre dans la peau du chien.
Un chien, quand il mord, c'est juste pour dire non. Ça, tu peux pas.
Dans un monde qui respecte la nature de chacun, sa singularité.
On peut pas le juger comme un homme. Il faut qu'on redéfinisse le statut du chien.
En tout cas, c'est un chien.
Mais quand est-ce que j'arriverai à parler comme je suis, bordel de merde?
Après Les Chèvres, c'est un nouveau procès animalier qu'on retrouve au cinéma avec le procès donc du chien, un film avec un casting très fort, François Damiens, Laetitia Doche, Anne Dorval. C'est un film très sympa à aller voir en famille. On va faire une pause musicale maintenant, avant de voir les avant-premières et autres événements qui sont proposés par votre ciné Mazarin cette semaine, la ressortie d'un film aussi, avec à l'affiche un dieu culte et le film du grenier de Laetitia en fin d'émission. Juste avant, qu'est-ce qu'on écoute, Laetitia?
On va écouter T-Rex avec Galilon, un titre qu'on a pu entendre dans le film Long Legs, sorti cet été, ouais. Et puis qu'on entend aussi dans Dark Shadows de Tim Burton.
On revient juste après, vous êtes sur Back FM.
Get it on.
Vous écoutez Bac FM, bienvenue, je m'appelle Théo, je suis en compagnie de Letty, comme tous les mercredis matins, pour parler ciné, les infos qu'on a retenues pour vous et les sorties ciné dispo aussi au Mazarin, qu'on vient d'évoquer avec le retour de Beetlejuice par Tim Burton, par exemple. Ça, c'est vraiment la grosse sortie de cette semaine, hein. Laetitia vous en a parlé, je vous en ai parlé. C'est vraiment la grosse sortie attendue par beaucoup. Les sorties ciné, c'est aussi des programmes jeunesse qui nous emmènent cette semaine à l'Opéra avec des chiens. Je sais que ça plaît beaucoup quand...
Il y a beaucoup de chiens aujourd'hui, hein, au
programme. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de chiens au programme, c'est vrai, c'est une émission qui a du chien. Non mais je sais que ça plaît beaucoup quand j'évoque un petit peu les projections jeunesse aussi, parce que si vous êtes parents, que vous nous écoutez, des fois, c'est intéressant aussi de voir ce que vous pouvez emmener voir vos enfants, et puis c'est quand même un lieu que les enfants doivent découvrir au moins une fois dans leur vie. Le cinéma, je le disais, donc l'opéra avec des chiens, ça s'appelle Des chiens à l'opéra, ils sont pas trop foulés pour le titre. C'est au cœur du prestigieux Metropolitan Opera, c'est un chien des rues qui s'appelle Samson, qui est pourchassé par des chasseurs de chiens errants. Il va trouver refuge dans ce théâtre emblématique où il croise le chemin de Margot. C'est une charmante petite chienne appartenant à Anastasia, la danseuse étoile du ballet. Et puis ils vont ensemble partir à la recherche d'un diamant disparu qui risquerait d'annuler la représentation du ballet. C'est une très belle aventure mise en musique aussi. Donc pour le jeune public, ça permet aussi de découvrir une musique d'opéra. Tout ça avec un live action qui est très sympa. Voilà, je vous invite à aller le voir samedi et dimanche pour les projections. Les heures sont à retrouver sur le site du ciné Mazarin ou sur place. Et puis dans l'univers jeune public, très jeune public même d'ailleurs, il y a toujours Mon Premier Ciné avec le Quatuor à Cornes jusqu'au 22 septembre, samedi, dimanche également pour les projections. Le théâtre qui s'invite au cinéma avec les sociétaires de la Comédie Française comme Laurent Lafitte par exemple. Dimanche et jeudi prochain, c'est le classique Cyrano de Bergerac que vous retrouverez 16h pour dimanche et 19h15 jeudi. Le programme de l'Opéra de New York est actuellement disponible, 8 pièces proposées jusqu'à mai 2025. Je vous invite à aller voir sur le site internet du ciné Mazarin si vous êtes intéressé, ou vous rendre également sur place. Avant que Letty nous parle du film qu'elle a sorti de son grenier, eh bien on fait un petit focus sur une ressortie événement. C'est dans le cadre des Ciné Comedy Club. Ça a bien marché cet été, ça reprend donc logiquement pour cette rentrée. Bernard Blier et Jean Gabin à l'affiche de Le Cave se rebiffe, l'histoire d'Éric Masson qui, pour rembourser sa dette auprès de l'ancien proxénète Charles Le Picard, lui propose de monter une affaire de fausse monnaie. Le seul qui puisse mener à bien l'opération, eh bien c'est Ferdinand Maréchal dit le Dab, mais il s'est retiré des affaires et élève des chevaux à Caracas. Alors il va se montrer d'abord réticent, mais il finit par accepter. Il revient à Paris après 15 ans d'absence. Dimanche, il y a deux séances, 11h et 18h15, avec bien sûr toujours des répliques cultes, signé Jean Gabin.
Je t'envoie un mec cette semaine.
À quoi que je le reconnaîtrais?
Un beau brun, avec des petites bacantes, grand, l'air con.
Ça court les rues, les grands cons.
Ouais, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de mettre les talons. Il serait à Sèvres. Allez, fatigue pas tes vieilles jambes, je connais le chemin. Au revoir.
C'est marrant que vous m'ayez reconnu tout de suite.
On m'avait fait un portrait parlé. Je pouvais pas me tromper.
Le Cave se rebiffe, c'est la ressortie ciné de cette semaine au ciné Mazarin dans le cadre des Ciné Comedy Club. On termine avec Letty qui revient de son grenier.
Ouais, je suis montée en vitesse là, vous cherchez ça. Alors, dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Voilà ce que nous promettait l'affiche d'Alien, le 8e passager, lors de sa sortie en 1979. Un film culte de Ridley Scott qui sera le premier opus d'une des sagas d'horreur les plus mythiques du cinéma. Et justement, le dernier volet de Alien, Romulus, et bien c'est sans conteste un des plus gros succès de l'été en termes de box-office. Du coup, pour ce premier film du grenier de cette saison, on va revenir aux origines du mal, puisque j'ai descendu pour vous Alien, le 8e passager, dont l'héroïne n'est autre que la déjà très talentueuse Sigourney Weaver, dans le rôle de l'emblématique lieutenant Ripley. Voici un petit extrait sonore du
film. Attendez, ça bouge. On dirait qu'il y a une vie organique.
Ok, Ripley, je suis devant le sas de sécurité.
D'accord.
Tu es là, Ripley ?
Oui.
Nous sommes décontaminés, laisse-moi entrer.
Qu'est-ce qui est arrivé à Kane ?
Quelque chose s'est accroché à l'huile, faut l'emmener immédiatement à l'infirmerie.
Quel genre de chose ? Donne une définition claire.
C'est un organisme. Ouvre le sas.
Attends une minute. Si nous le laissons entrer, l'appareil peut être infecté. Tu connais la procédure de quarantaine.
24 heures de décontamination.
Il peut mourir en 24 heures. Ouvre le sas.
Écoute-moi, si on n'applique pas la quarantaine, on peut tous mourir.
Enfin, est-ce que tu vas ouvrir cette saloperie de sas? Il faut tout de suite le faire entrer.
Non.
Je ne peux pas. Et si vous étiez à ma place, vous en feriez autant.
Ripley, c'est un ordre. Ouvre immédiatement le sas.
Oui.
Je te dis que c'est un ordre.
Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo. Troisième officier au rapport. Les autres membres de l'équipage. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Et le capitaine Dallas sont morts. La cargaison et l'appareil détruits. Je devrais atteindre la frontière dans moins de 6 semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici Ripley, dernier survivant du Nostromo. Terminé.
Alors, Alien, ça parle de quoi ? Eh bien, c'est une histoire qui se déroule en 2112, et là, on a un cargo spatial qui s'appelle le Nostromo, qui fait route vers la Terre. Il a sa soute qui est remplie de minerais, et en fait, ben, il est juste de retour d'une banale mission commerciale. À son bord, les 7 membres de l'équipage, qui sont composés de 5 hommes et 2 femmes, sont maintenus en biostase, c'est-à-dire ben, une sorte de sommeil artificiel, mais ils sont soudainement réveillés par l'ordinateur de bord, qui, curieusement, s'appelle Maman, cet ordinateur de bord. C'est un peu bizarre, je sais, mais bon, pourquoi ? Il y a une explication, mais j'ai pas le temps de vous expliquer. Vous irez voir sur internet. Et alors qu'ils croient simplement être arrivés à destination, hein, nos membres de l'équipage, eh bien Maman leur apprend qu'ils ont été réveillés pour une toute autre raison. L'ordinateur de bord a en effet capté un signal radio inconnu dans l'espace et les envoie vérifier l'éventuelle présence d'une vie extraterrestre. Ils vont donc se poser sur cette planète d'où émane un étrange signal, mais ils vont abîmer le vaisseau durant l'atterrissage parce que c'est un peu morcelé quand même, sur cette planète-là. Ouais. Ça va obliger l'équipage du Nostromo à scinder en deux. Il va y avoir un premier groupe qui est mené par le lieutenant Ripley qui va s'occuper de réparer les dommages, et puis un second, celui du capitaine Dallas. Eux, ils vont partir explorer cette planète inconnue, une mission qui va rapidement mal tourner lorsque l'officier Kane est attaqué par une créature qui lui saute au visage et s'agrippe à lui. Alors ses compagnons vont quand même parvenir à le ramener au vaisseau inconscient mais en vie, contre l'avis de Ripley, hein, qui avait demandé sa mise en quarantaine. C'était le Covid avant l'heure, un petit peu, hein, quand même, Alien. Ça va s'arranger quelques temps plus tard, puisque Kane, il est finalement délivré de la créature qui semble morte. Il a apparemment aucune séquelle. Du coup, qu'est-ce qu'il fait l'équipage ? Il se dit, bon allez, on va se faire un petit repas avant de se rendormir. Sauf que pendant le dîner, eh bien, Kane, il est soudainement pris de convulsions et il voit son abdomen littéralement se perforer par une immense bestiole qui sort de son corps et qui s'échappe dans le vaisseau. Désormais, le Nostromo compte à son bord un 1/8 passager et un jeu du chat et de la souris sanglant va alors débuter pour tenter de se débarrasser de cet hôte non désiré.
Mais Alien, c'est un film qui va vraiment marquer le renouveau en fait, hein, pour le cinéma.
Ouais, ouais, à l'aube des années 80, Alien, c'est effectivement le film qui va réunir le cinéma d'horreur et le cinéma de science-fiction en proposant une histoire d'épouvante dans l'espace qui arrive finalement peu de temps après deux gros succès dans chaque genre, hein, puisqu'on a eu peu de temps avant le gros succès de Star Wars qu'on évoquait tout à l'heure, et puis aussi des Dents de la Mer, hein, c'est deux influences d'ailleurs, ouais, qui ressortent dans ce film-là. Et puis outre cette rencontre inédite entre la SF et l'horreur, eh bien Alien c'est aussi un film qui va devenir une référence en matière de body horror, en matière de home invasion, et puis dans lequel on va retrouver également certains traits qui appartiennent au thriller ainsi qu'une bonne dose d'action, une recette qui va faire qu'Alien va radicalement se distinguer de tous les films d'horreur de l'époque et va donc révolutionner le genre.
Et ce qui explique aussi que c'est un succès pour de nombreux films par la suite, avec la créature aussi du film qui est une véritable œuvre d'art.
Et oui, alors on l'a pas dit encore, mais la créature du film, donc l'Alien, elle a un nom, c'est le xénomorphe. Ouais. Et il a été créé par le célèbre artiste plasticien suisse H.R. Giger, qui s'était déjà illustré en signant quelques pochettes d'albums marquantes. Hein. Il y en avait une pour le groupe Emerson, Lake & Palmer, notamment. Et puis côté ciné, eh bien Giger, il va d'abord se faire remarquer pour son travail sur le projet d'adaptation avorté du film Dune.
Ouais.
C'était au milieu des années 70, et c'est à ce moment-là où le scénariste d'Alien, Dan O'Bannon, et le réalisateur Ridley Scott vont être impressionnés par son travail, et ils vont lui demander de créer ce fameux xénomorphe, une créature iconique qu'on voit finalement assez peu dans ce premier film, mais qui hante désormais le cinéma d'épouvante depuis 45 ans, qui est considéré, tu le disais, hein, comme une œuvre d'art à part entière. Et d'ailleurs, H.R. Giger et toute l'équipe chargée des différents décors et effets d'Alien, ils ont remporté l'Oscar des meilleurs effets spéciaux en 80.
C'est la naissance d'une créature devenue culte, et puis c'est aussi la naissance d'une héroïne, Alien, et d'une actrice marquante des années 80-90.
Et oui, tout à fait, Alien, c'est la naissance du lieutenant Ellen Ripley, dont le rôle, il faut savoir, était au départ destiné à un homme, avant qu'il revienne finalement à une femme, en l'occurrence à Sigourney Weaver. Et ce détail, on le ressent finalement pas mal dans le film, hein, puisque Ripley, elle apparaît d'abord comme un personnage qui est plutôt secondaire, ouais, qui est plutôt emmerdante, puisqu'elle veut pas laisser rentrer le mec qui s'est chopé la créature. Et puis, il y a un revirement de situation qui va en faire à la fois la première héroïne d'un film d'action au cinéma, mais aussi la future héroïne d'une saga à succès. Sigourney Weaver, qui était jusque-là encore inconnue du grand public, va décrocher avec Alien son premier grand rôle au cinéma. Ouais. Et puis, 5 ans plus tard, on la retrouvera dans un rôle d'un personnage qui est radicalement différent, mais tout aussi inoubliable, celui de Dana Barrett dans SOS Fantôme.
Comme tu le disais, Alien, c'est devenu culte parce qu'il y a beaucoup de films maintenant Alien, et c'est une saga qui est devenue avec des épisodes plutôt inégaux maintenant.
Ouais, une saga désormais composée de 7 films, hein, c'est quand même pas rien, qui ont tous cartonné au box-office et pour lesquels se sont succédés aussi des réalisateurs prestigieux, puisque dès Alien le Retour...
C'est pas toujours les mêmes.
Ouais, dès le deuxième, donc Alien le Retour, c'est en 86, Ridley Scott, il va passer le flambeau à James Cameron, qui venait de connaître un immense succès avec Terminator. C'est ensuite David Fincher qui va se coller à la réalisation d'Alien 3 en 92, avant que la franchise, elle, ne prenne des couleurs bleu-blanc-rouge, vous voyez, cocorico, effectivement, on peut le dire, avec Alien la Résurrection en 97, puisqu'il a été réalisé par notre Jean-Pierre Jeunet national, donc Monsieur Amélie Poulain, hein, qui avait d'ailleurs amené dans ses valises son acteur fétiche Dominique Pinon, qui partagera donc l'affiche avec une certaine Winona Ryder. Qui joue dans Beetlejuice.
Ah bah oui, on la retrouve, ouais, bien sûr.
Voilà, et bah ensuite on va assister au retour de Ridley Scott pour la réalisation des deux préquels Prometheus et Alien Covenant en 2012 et 2017, avant de nouveau passer la main au réalisateur uruguayen Fede Alvarez pour le dernier Alien Romulus qui est sorti en août. Et tout ça, bah ça nous fait une sacrée saga qui est composée d'excellents opus, d'autres qui sont plus dispensables. En tout cas, les films de la franchise, elles manquent jamais de diviser le public, et ça s'est vérifié encore une fois avec Alien Romulus, qui, si vous ne l'avez pas vu, est d'ailleurs toujours en salle au ciné Mazarin, donc vous avez encore la possibilité d'aller le voir. Et puis sinon, les autres films, je sais pas si tu les as vus, Théo, les films de cette saga Alien.
J'en ai vu deux, je crois.
T'en as vu quelques-uns,
Moi aussi, le premier, bien sûr.
Je vais être honnête, je les ai pas tous vus non plus.
C'est lequel ton préféré ?
Bah c'est le premier parce que c'est la base.
Ouais,
celui de Jeunet est pas mal non plus, moi je vous le conseille.
D'accord.
C'est aussi un très très bon film. Et si vous voulez les voir, ils sont tous disponibles sur la plateforme Disney+. Même les deux horribles crossovers Alien vs Predator qui étaient sortis en 2004 et 2007 en marge de la saga originelle.
Merci beaucoup Letty.
Merci
Théo. Et comme tu le dis, ils sont encore dispo au cinéma Mazarin et également au cinéma, le Crystal Palace à la Charité-sur-Loire. On va en parler avec mon invité. À 13h, je reçois Emmanuel Dumont. Il est chargé de communication pour Cinéconon et Michel Petit-Fontanelle pour l'ACNE, l'association des cinéphages de Nevers. Car le mercredi, c'est cinéma sur Bac FM. Cette émission, vous la retrouvez en podcast sur bacfm.fr et puis rediffusion à 18h. Si vous nous écoutez à 18h, eh bien vous la retrouvez en podcast sur bacfm.fr. Merci Letty, à tout à l'heure.
Merci Théo, salut.
Moteur,
allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y Jean-Pierre.
Moteur. Et action.